France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme du 5-6, ce matin, des rencontres. Un homme qui met la mer en musée dans les chroniques littorales à 5h10. Un homme qui met le lait en fromage en Haute-Savoie. C'est un éleveur laitier qui est à 5h45, notre invité déjà debout. Et juste après, des hommes en armure. Question sur les chevaliers dans la chronique Les Petits Bateaux. Il y aura aussi de l'humour, le regard de Charline sur cette rencontre Trump-Zelensky à la Maison-Blanche qui a tant fait parler, et de l'analyse Zoom à 5h40 sur la stratégie du RN pour s'implanter localement, et Café Philo sur la valeur de la vie juste avant 6h. Et puis de la musique à consommer sans modération à Rat Kilo et dans la playlist Inter.
Inter.
Mais d'abord, c'est le journal d'Astrid Meignet-Carn. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les 27 sont d'accord sur le visage de la défense européenne.
Les membres de l'Union ont validé un plan pour réarmer l'Europe hier à Bruxelles et ils attendent maintenant les propositions concrètes de la Commission. Fabien Cazot, sur quoi les dirigeants se sont mis d'accord ?
Première conclusion du Conseil qui a fait consensus parmi les 27, acquérir des matériels militaires jugés prioritaires pour réarmer l'Europe. La défense aérienne, l'artillerie, y compris à longue portée, les missiles, les drones et les systèmes de défense anti-drones. Cette liste précise a été validée par l'ensemble des États membres hier, tout comme le plan à 800 milliards présenté par la Commission européenne il y a 3 jours pour les aider à financer leur effort de défense. Second gros chapitre, le soutien à l'Ukraine. Là, c'est une quasi-unanimité seulement qui a prévalu. 27-1, la Hongrie de Viktor Orban, réputée proche du Kremlin, n'a pas souhaité s'y associer. Le texte final réaffirme que seule une paix juste, négociée avec l'Ukraine, avec des garanties de sécurité contre toute nouvelle agression russe, pourrait un jour s'installer. L'histoire est en train de s'écrire, s'est réjouie hier soir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donnant rendez-vous le 19 mars pour la publication d'un livre blanc justement sur la défense européenne, qui devrait esquisser de nouvelles pistes pour encore la renforcer.
Fabien Cazot, correspondant d'Inter à Bruxelles. Et à l'issue de ce sommet, c'est Emmanuel Macron qui a donné une conférence de presse. Il a bien sûr redit la détermination des 27 à soutenir l'Ukraine et à muscler leur défense. Le chef de l'État a aussi été interrogé sur le tacle de Vladimir Poutine de la veille. Le président russe a parlé de ceux qui, je cite, « veulent revenir au temps de Napoléon et oublient comment cela s'est terminé ». Emmanuel Macron lui a répondu hier soir.
Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ce n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre.
Emmanuel Macron qui s'est aussi adressé à Donald Trump, là aussi en faisant référence à l'histoire comme pour lui rafraîchir la mémoire. Le chef de l'État a rappelé la contribution du marquis de Lafayette à l'indépendance des États-Unis, mais aussi le débarquement de Normandie en 1944. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre, a dit Emmanuel Macron. De l'autre côté de l'Atlantique, baisse des tensions commerciales entre les États-Unis, le Canada et le Mexique après le recul de Donald Trump sur la hausse des droits de douane hier. Le président américain a annoncé mettre en pause ses nouvelles taxes jusqu'au 2 avril. En réponse, le Canada suspend l'essentiel de ses mesures de représailles jusqu'à la même date. L'armateur français CMA-CGM va investir 20 milliards de dollars aux États-Unis, soit 18,5 milliards d'euros. Annonce de Donald Trump aux côtés du patron du géant français du transport maritime, Rodolphe Saadé. Un investissement pour augmenter la capacité des principaux ports à conteneurs sur les côtes est et ouest des États-Unis, mais aussi pour garantir la flotte de bateaux sous pavillon, pour agrandir la flotte de bateaux sous pavillon américain, a précisé le PDG hier.
5h04 sur France Inter, le pape s'exprime pour la première fois depuis 3 semaines.
Depuis qu'il est entré à l'hôpital pour une double pneumonie, François s'adresse à ses fidèles dans un court message vocal diffusé par le Vatican hier. Et le pape a le souffle extrêmement court, Bruno Duvic.
C'est un message difficile à entendre dans tous les sens du terme. Le pape parle dans sa langue maternelle, l'espagnol. Petit extrait sans traduction.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Gracias.
François dit qu'il remercie ceux qui prient tous les soirs place Saint-Pierre pour sa santé. Chacun mesure à quel point le souffle est court. C'est celui d'un homme de 88 ans, atteint d'une infection sévère des bronches et d'une double pneumonie. Si l'objectif est de rassurer sur son état, il ne sera sans doute pas atteint. Mais ce message coïncide avec des bulletins de santé un peu moins alarmistes depuis mardi. État stable, pronostic vital toujours réservé, mais pas de nouvelles crises respiratoires. Cela répond aussi à ceux qui s'étonnaient, s'inquiétait de n'avoir d'autres traces de vie du pape que les documents publiés et signés de sa main, évidemment rédigés en avance ou par d'autres. Le pape va-t-il s'en sortir ? Plus de 3 semaines de traitement n'ont pas réussi à faire régresser la maladie, mais il donne ce soir un signe de vie ténu mais tangible.
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. En France, les 200 plus gros narcotrafiquants incarcérés seront regroupés dans 2 prisons, à Vendin-le-Vielle dans le Pas-de-Calais et à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Annonce de Gérald Darmanin hier soir, 2 prisons choisies parce qu'elles sont récentes et déjà très sécurisées. La première dans le Pas-de-Calais sera opérationnelle fin juillet, l'autre mi-octobre après des travaux, a expliqué le garde des Sceaux. Les démarcheurs téléphoniques désormais obligés d'avoir votre consentement avant de vous appeler. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un texte pour faire cesser les appels intempestifs qui exaspèrent. Plus de 90% des Français en ont assez de ces coups de fil, a déclaré Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce et soutien du texte.
Et puis c'est le début de la grande collecte des Restos du Cœur.
Les chasubles roses vous attendent dès ce matin à la sortie des supermarchés partout en France. Des dizaines de milliers de bénévoles prêts à remplir les chariots. Une tâche qui est de plus en plus difficile pour l'association. Comme en témoigne Pierre, il est bénévole au Restos du Cœur de Limoges.
Les bénéficiaires sont beaucoup plus nombreux. Donc les besoins sont plus importants, mais on a, il faut le dire, moins en moins de choses. C'est-à-dire que les magasins maintenant revendent les denrées qui sont à date courte et nous les donnent plus systématiquement comme c'était avant. Alors on a moins de choses. Vous voyez le rayon légumes, il n'y en a pas. On n'a plus de lait en ce moment, on n'a pas d'œufs. Et ça, ce sont des produits qui sont très demandés et en ce moment, on ne peut pas les donner. Du fait qu'il y ait beaucoup plus de monde qui soit bénéficiaire maintenant, on est obligé de réduire la taille des parts pour qu'il y en ait pour tout le monde. Dans l'ensemble, on arrive quand même à leur donner pas mal de choses. Hein. Je pense quand même que globalement, on a une action qui est positive. Oui, on se rend compte qu'on n'est pas là pour rien, quoi. En dehors de son petit confort personnel, le fait d'aller vers les autres et puis un peu aider, c'est quand même une satisfaction en disant, bon, j'ai peut-être fait aujourd'hui quelque chose d'utile quand même.
Pierre, bénévole des Restos au micro d'Elsa Fournier d'ici Limousin, et la collecte Marion, elle se poursuit jusqu'à demain soir.
Et on en parlera avec notre invité à 6h20, le porte-parole des Restos du Cœur.
En marge de la victoire de Lyon à Bucarest en 8e de finale aller de la Ligue Europa, Paulo Fonseca s'est exprimé hier. L'entraîneur de Lyon est revenu sur sa lourde suspension pour avoir menacé physiquement un arbitre dimanche. C'est très injuste, je n'ai pas été sanctionné pour mon geste, a commenté l'entraîneur portugais. Il est suspendu jusqu'au 30 novembre. Sur le terrain, Lyon a battu Bucarest 3-1. Décollage et mise en orbite de son satellite réussi hier pour la fusée européenne Ariane 6. L'engin a été lancé depuis la base de Kourou en Guyane, après avoir été plusieurs fois reporté aux États-Unis. En revanche, nouvelle contre-performance pour la méga-fusée Starship cette nuit. L'entreprise SpaceX d'Elon Musk a perdu tout contact avec le 2e étage de la fusée, comme lors du précédent vol test. C'était en janvier, Marion.
C'était le journal d'Astrid Meignier-Carn et on va garder les yeux tournés vers le ciel. Il est 5h08.
La météo avec Utopia. Camping, tentes et cabanes en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Le beau temps domine encore, Elodie Calac.
Journée souvent ensoleillée, mais c'est très nuageux sur les Pyrénées et de la Méditerranée au sud du Massif central avec quelques averses. Davantage de pluie sur le Languedoc-Roussillon, surtout sur les Cévennes. Un peu de neige au-dessus de 2000 mètres sur les Pyrénées. Le vent de sud à sud-est reste assez fort sur toutes ces régions, jusqu'à 60 à 80 km à l'heure, parfois 90 vers le Lauragais et la Montagne Noire. Sur la Bretagne, la Vendée et le Cotentin, beaucoup de nuages aussi, une ondée possible. On peut espérer quelques éclaircies cet après-midi. Ailleurs, le soleil s'impose, un peu voilé de temps en temps, surtout de la Normandie au sud-ouest. Les températures sont en hausse ce matin, 1 à 4 degrés sur les régions de l'Est, jusqu'à 7 à 13 degrés en allant vers l'Ouest et la Méditerranée. Cet après-midi, il fera encore très doux, 15 degrés à Cherbourg, Perpignan, 17 à Reims, Paris, Auxerre et Marseille, 18 degrés à Nantes, Bourges, Colmar et Lyon, et 20 degrés à Bordeaux et à Biarritz.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
À 5h10, à suivre sur Inter, il y a ceux qui mettent les bateaux en bouteille et ceux qui mettent la mer en musée. Vincent Compredon en est un et il est aujourd'hui dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout est éleveur laitier en Haute-Savoie. Il se lève en ce moment même, on le salue, on lui dit rendez-vous à 6h moins le quart tout à l'heure. La notion de coming of age est décryptée dans la chronique d'où ça sort. Et puis de l'humour aussi ce matin, Charline Vanhoenacker explose les faits. Retour sur cette violente altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ça sera à 5h25. Dans une poignée de minutes donc, les chroniques littorales. Mais d'abord, bon réveil et en douceur sur Inter. Le groupe de pop franco-britannique François and the Atlas Mountains chante Party.
Du monde des vivants, parti d'autres fêtes m'attendent plus loin des tables et des gants blancs. Les visages des gens, même ceux que j'aimais, n'ont plus de sens ici. C'est l'immense nuit. L'éternelle vacance. Daddy, cette chanson c'est du silence pour toi, pour toi. Tu explores des chemins. Le grand tout, le grand pain.
Partie de François and the Atlas Mountain, extrait de leur dernier album H-Fleuve, un morceau en playlist sur France Inter. François and the Atlas Mountain seront en concert notamment à Lyon le 24 mai et au Trianon de Paris le 25 novembre prochain. 5h13 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales et c'est avec vous. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées comme d'habitude à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un homme qui a quasiment de l'eau salée dans les veines.
Par la personne de Vincent Compredon, Marion Lourd. Alors Vincent Compredon a été commissaire général de la marine et il a été l'homme à qui on a confié la rénovation du musée de la marine au Trocadéro. Bonjour Vincent Compredon.
Bonjour.
Vincent Compredon, vous n'êtes plus en activité, vous êtes né marin, vous êtes toujours marin, vous œuvrez toujours pour la mer. La sensibilisation pour la mer et l'océan, les enjeux passés, présents et à venir.
Depuis que je suis petit, j'ai envie de dire depuis que je suis né, je crois que j'ai ça dans le sang. Mon père était donc officier de marine, j'ai commencé à faire de la voile très jeune, j'ai commencé la régate aussi très jeune, je suis rentré rentre dans la marine, donc par le biais des commissaires de la marine, je fais 3 tours du monde. Et donc la mère ne m'a jamais quitté, elle fait maintenant partie de moi. Je dis toujours que j'ai de l'eau salée dans les veines. Et finalement, je combats, je milite pour la mer de différentes façons. Et surtout, pour les jeunes générations, c'est leur monde demain. Je leur donne les clés, finalement, les clés maritimes de leur monde de demain.
Vous donnez ces clés par le biais de conférences, d'articles aussi. Vous défendez toujours ces enjeux maritimes.
Ça reste mon combat. À travers des conférences, à travers des clubs et des cercles, parce que je les aide à construire des modèles pour, là aussi, sensibiliser le plus possible de monde. Je fais des conférences dans les universités, je fais des conférences dans des cercles. Là, j'étais dernièrement à Carteret pour passer le week-end avec...
En Normandie.
En Normandie, c'était à la table de Normandie, chez le frère de la côte. Mais c'était passionnant, on était entre marins. Dès qu'on est entre marins, on se comprend bien. Mais j'aime aussi beaucoup parler aux gens qui découvrent la mer, qui découvrent l'importance et qui n'ont pas encore bien intégré que la mer est l'avenir de l'humanité, parce que la mer répond à toutes les difficultés qu'on a sur la Terre. Il suffit de parler de transport maritime, il suffit de parler de câbles sous-marins, il suffit de parler de stratégie, voir tout ce qui se passe sur la mer. Et voilà, la mer aujourd'hui est si importante et demain encore plus.
Et vous qui avez fédéré tous les musées maritimes de France, aujourd'hui, votre nouvelle action qui est personnelle et vous êtes engagé, eh bien vous créez des musées maritimes à l'étranger. Vous les concevez.
Alors ça, c'est presque mon grand dada aussi aujourd'hui, parce que ça fait partie de mon action. Je me souviens, quand j'étais directeur du Musée national de la Marine, je m'étais dit, bon, on va déjà travailler avec les 6 musées de la Marine. Puis après, on a créé le réseau des musées maritimes français, on est près d'une centaine. Après, ça a été l'Europe. J'ai parlé à la Commission européenne qui était très intéressée pour fédérer les musées, encore une fois, pour transmettre le message. Mmh. Et puis, tant qu'on y était, et pourquoi pas, parler finalement du monde entier. Et j'ai intégré très rapidement l'Association internationale des musées maritimes avec ce nouveau modèle de musée qui parle à tout le monde et qui a un message. C'est pas seulement pour venir voir des objets. En sortant d'un musée de cette génération, de cette nouvelle génération, on sort de là en disant, un, la mer est essentielle, deux, il faut la protéger, et puis évidemment, pour le musée de la marine, la France a une grande histoire maritime, et la marine nationale est très importante, et même essentielle pour la France, elle a une grande histoire et une belle histoire. Il n'y a pas que des défaites, il y a des grandes victoires. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé en 2015 au musée, il n'y avait qu'un seul jeu pour enfants. Et ce jeu s'appelait Trafalgar. Bon, j'ai évidemment, au bout d'un mois, il a fallu le temps d'arriver. Voilà, aujourd'hui, on parle aussi de Trafalgar, il faut assumer l'histoire de France, mais on parle aussi des grandes victoires, comme la victoire de la Chesapeake, qui a permis l'indépendance américaine.
On l'a célébré de Chesapeake en 2024. Vous, vous donnez le goût de l'eau salée aux autres.
Le goût de la mer. Oui. J'aime beaucoup cette formule parce que tous les Français ont besoin d'être sensibilisés à la mer.
Parce que demain est aujourd'hui.
Demain est aujourd'hui. Je me souviens avoir terminé le premier discours au musée en disant « c'est demain et ben c'est aujourd'hui ». Donc merci d'avoir repris la formule. Demain commence aujourd'hui.
Merci à vous Vincent Campredon. Votre ouvrage « Le voyage en mer » est édité chez Grasset. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque.
Le 5-6 sur France Inter.
Il est 5h17 sur France Inter et à la une de la presse ce matin, il y a naturellement la défense européenne. Dans le cadre qu'on connaît sur l'Ukraine et ce Conseil européen qui s'est achevé hier soir, le Parisien souligne la grande inquiétude des jeunes et le risque d'un conflit avec la Russie, désormais évoqué ouvertement, qui angoisse apparemment de nombreux jeunes Français. L'autre versant de cette crainte, c'est la Russie qui nous menace. Photo en une de la Croix. Vladimir Poutine, le président russe, regard méprisant au milieu des soldats en armes. Le Figaro évoque le casse-tête financier que représente le réarmement de la France. Les chefs d'État et de gouvernement européens ont en effet validé un plan européen à 800 milliards, dont 650 pris en charge par les États, qui pourront s'endetter plus facilement sans que ce soit compté dans leur déficit plafonné à 3%. Dès lors, comment trouver les fonds ? Pas par l'impôt, promet la ministre du Budget dans les pages du journal, qui évoque un recours à l'épargne privée. La une de l'opinion, elle s'intéresse au choix qu'il va falloir faire, selon le chef de l'État. Emmanuel Macron promeut le modèle danois qui repousse l'âge légal de départ à la retraite à 70 ans, alors que les partenaires sociaux sont réunis en conclave en ce moment pour réformer la réforme des retraites. Toujours très juste, le caricaturiste CAC montre le président placardant une affiche qui annonce « effort de guerre, retraite à 70 ans ». Sous l'œil médusé des deux chefs de la CGT et de la CFDT, Sophie Binet commente même « alors ça, pour une déclaration de guerre ». Une autre guerre, celle de l'administration Trump à la science, fait la une de Libération. Le quotidien dénonce l'obscurantisme américain avec cette célèbre photo d'Einstein tirant la langue détournée. C'est le visage de Donald Trump qui a remplacé celui du scientifique. Et face à tout cela, partir. C'est ce que nous propose le supplément du week-end des Échos. En une, un avion bleu foncé fend un ciel clair. Sur le quotidien, les Échos, c'est une fusée qui s'élance dans un grand nuage de fumée. Décollage réussi pour Ariane 6, se réjouit le quotidien. Décollé, oui, mais pour où ? Le Parisien Magazine nous donne une idée avec en une ce collage d'une image de poulpe, de personnages de la série Squid Games, de produits de beauté, de groupes de K-pop. C'est la Corée du Sud qui est en vedette dans ce numéro. À 5h20, comme tous les matins à cette horaire, c'est un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, le coming of age en bon français. Alors Cyril, d'où ça sort ?
Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que c'est un terme qui est apparu en 1819 et c'est à un Allemand qu'on le doit, Johann Carl Simon Morgenstern. Que faisait-il ce garçon ? Il est philologiste. Et là, vous êtes peut-être comme moi, en écrivant ce petit billet, vous vous demandez ce qu'est un philologiste. Qu'est-ce que c'est la philologie ? Eh bien, selon l'École nationale des chartes, c'est essentiellement une science du texte, une archéologie du langage, de la littérature et de la culture en général. Alors, je vous dis que Morgenstern a inventé Coming of Age Story, mais en fait, il a surtout inventé la notion de Bildungsroman, car oui, il était allemand.
Vous êtes sûr de l'accent, là ?
Moyen. Allez. Bildungsroman, si on traduit littéralement, ça veut dire roman de formation, un sujet enseigné par Morgenstern.
Mais c'est pas lui qui a popularisé le terme.
Non, en effet, mon bon Noël, c'est un autre allemand, Wilhelm Dilthey. Lui, c'est un sociologue et un théologien, toujours allemand, qui va donc aussi s'intéresser à ce moment où le protagoniste d'une histoire passe un cap. En 1870, Dilthey écrit que la quintessence de ce Bildungsroman se trouve dans le livre de Goethe « Les années d'apprentissage » de Wilhelm Meister, publié en 1796, roman dans lequel le personnage doit se découvrir lui-même, mais également s'intégrer à la société. Plus tard, l'attrape-cœur de Gilles Salinger servira à son tour de parfait exemple d'une histoire coming of age. Au cinéma, Les 400 coups de François Truffaut, sorti en 1959, sera un des premiers films à être identifié dans ce genre resté très populaire. Mon préféré, à moi, c'est Boyhood de Richard Linklater, sorti en 2014, un film tourné sur 12 ans quand des gamins entrent dans l'âge adulte. Une histoire magnifique que je vous recommande.
Et nous, on vous recommande le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Ils reviennent tous les deux cet après-midi sur Inter. Il sera question des triades chinoises, mais aussi du lancement de l'émission La Nouvelle Star. C'était en 2003 déjà. 5h22, elle, c'est une figure prometteuse de la scène rap actuelle. Juste avant l'humour de Charline Van Honecker, voici Dochi Death Roll.
The freeway when I need a breeze, ay. Wine in Chinese when I feel uneasy. Fall to my knees, take a line, I needed a boost. Stumble inside of the booth, mumbling none of the truth. As sweat drips down my tits, I contemplate how did ever get like this. I contemplate how did ever get this rich or get this bag. I wonder what them labels see in a bitch this black. I wonder what my friends all think when I'm not there. I love the way my ideas flow and I'm not scared. I love the way my hips roll slower, but I don't like the way it feels when my vices are absent, I'm not there. All day, all night, no time to work, work. Ex my fiance can make it work, work. Bad bitches get burned, but now that bridge is burning. When them tables turn, you can't call back. Ring, ring, got that call, but I can't call back. Feeling all alone, and I can't start that. I got shit to prove, no time to fall back. Fall back, fall for who is where you left at. I wonder what's the point, I wonder why fight. I go to light the joint, I wonder why light. I feel so ignorant, sick of being friendly only bring bad business. If repetition is the master's practice, then I'm a mathematician when it comes to fashion. Dolciana giving trash key tour, your fit is a detour, I'm not none of these whores. Check.
just like loose skin. I lost friends and lost kin. Closer than him, these loose ends. I'd rather choose me over them, these loose ends. Over him when I'm bleeding and I'm fading out. You know I gotta up that stock, I gotta up my profit. When I'm outside, keep my composure. When I'm outside sober, gotta up my
Dochi Death Roll, concert exceptionnel à venir en France le 21 août prochain dans le cadre du festival Rock en Seine qui est, vous le savez, un partenariat France Inter.
France Inter.
Et à 5h24, à l'heure où la tension monte entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, rions un peu avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10 sur Inter, elle explose les faits et lundi, elle revenait sur le fiasco de la rencontre Trump-Zelensky.
On s'en souviendra que le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale ressemblait vachement à un sketch du Saturday Night Live. Mmh. Comment les futures générations vont faire la différence entre les manuels d'histoire et les bandes dessinées ? Imaginez si ça s'était passé comme vendredi, mais à la conférence de Yalta. Churchill serait arrivé en survette, Roosevelt aurait gueulé « Mais tu te fous de notre gueule, Winston ! Tu fais jamais de sport, c'est pour nous humilier, c'est ça ?» Et Staline aurait dit « Eh oh, je suis venu, vous pourriez dire merci, merde !» Yalta qui se trouve en Crimée, donc fin du sketch. Et vendredi, dans le bureau ovale, Zelensky, il a dû se dire « Dis donc !» Il a mis les moyens, François Damiens, hein. Sauf que pour une caméra cachée, les caméras sont pas hyper bien cachées. Ça a dû lui rappeler le bon temps où il jouait dans les sitcoms humoristiques. Zelensky, hein, pas Damiens. Enfin bon, vous voyez. Alors cela dit, ce moment était affreux. On savait déjà que Trump est monstrueux quand il expulse les étrangers, mais maintenant on sait que quand il les accueille, c'est pire. Et cette nouvelle façon de faire de la diplomatie, d'hurler sur quelqu'un « Tu vas faire la paix, oui, sinon je te défonce !» Déjà rien que les fringues de Zelensky pour Trump, c'était un problème. Alors lui, il est président des États-Unis et il trouve le temps de mettre un costard, 3 kilos de fond de teint, 6 kilos de laque tous les matins. Alors il se dit que le président d'un petit pays comme l'Ukraine peut prendre 5 minutes pour passer à la blanchisserie. Et là, il s'est dit, tiens, Zelensky n'a pas de costard, on va lui en tailler un sur place. Alors pour se trimballer en jean et en t-shirt à la Maison Blanche, il faut au préalable avoir fait décoller des fusées. Sinon, c'est un manque de respect. Il manquait que le fils d'Elon Musk dans le bureau ovale pour dire « Eh les gars, essayez de vous comporter un petit peu comme des adultes, s'il vous plaît. Comme le dit le sage, pour faire la paix, prépare ton costume. » Tout est relatif, hein, parce que sur un transat à Gaza, tu peux recevoir Netanyahou en moulbite, et eh ben là, ça passe. Heureusement que Donald Trump n'a jamais eu à croiser Gandhi. Il lui aurait dit « Allez, tu m'enlèves ce rideau de douche, t'enfiles tes savates et là, on va pouvoir discuter. » Ensuite, Zelensky n'aurait pas dit suffisamment « Merci aux États-Unis. » Je crois même qu'il a oublié de s'essuyer les pieds avant d'entrer dans le bureau ovale. Alors qu'à l'entrée de son bureau, Trump a un très joli paillasson qu'il appelle la démocratie. Alors dans les livres d'histoire, on retiendra donc que l'Ukraine a perdu à cause d'un manque de politesse. Bon, ma question c'est, peut-on reprocher à l'Ukraine un manque de savoir-vivre alors qu'elle est concentrée sur le savoir-survivre ? Parce qu'aujourd'hui, tu peux annexer le Groenland, t'emparer du Canada, à partir du moment où tu dis merci, ça passe ? Trump, il va nous demander de rembourser le débarquement maintenant. On fait quoi ? On lui donne la Normandie ? Pour dire merci aux Américains, un César d'honneur à Julia Roberts, ça suffira pas les gars. Enfin voilà, Trump devait régler le conflit en 24 heures, il l'a envenimé en 24 minutes. Il a dit aussi récemment, l'Europe a été conçue pour baiser les États-Unis. Eh oui. Tiens, d'ailleurs, l'article 1 de la Constitution de l'Union européenne, on avait mal lu. Dans son discours, Robert Schuman, il commence d'ailleurs comme ça. « Messieurs, il n'est plus question de vaines paroles, mais d'un acte. On va bien niquer tous les ricains !» Voilà, conclusion avec un allié pareil, et on n'a plus besoin d'ennemis. Hein.
France Inter. Charline Vanhoenacker a dégusté du lundi au jeudi à 9h45 et demain samedi à 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
Tous les dimanches soirs sur Inter.
Taper dans le haut comme ça, mais enfin, moi, c'est mes passions littéraires, donc je fais ce que je ressens.
Fabrice Luchini et ses admirations littéraires.
Hugo a commencé à droite, il finit à gauche. Bon, ça s'est mêlé dans des états extraordinaires, tout le monde. Moi, je m'en tape un petit peu, pardonnez-moi.
Fabrice Luchini nous lit les textes qui l'inspirent.
Il y en a qui diront il nous fait yesh, il y en a qui diront c'est pas mal.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini, c'est tous les dimanches après le journal de 19h sur Inter.
5h28 sur France Inter. Ali Badou vient de me rejoindre dans ce studio pour nous donner un avant-goût du 6-9. Bonjour Ali.
Bonjour Marion. Alors avec au programme, oui, ce vendredi matin à 6h20, votre invité sera le porte-parole des Restos du Cœur, Yves Mérillon, qui attend de la générosité des Français pour pouvoir continuer leur mission à 8h moins le quart. Se réarmer, mais à quel prix ? C'est la question qui sera au cœur du débat éco entre Thomas Porcher et Dominique Seux. Et puis à 8h20, au lendemain du Conseil extraordinaire extraordinaire des 27 à Bruxelles. L'invité du grand entretien sera l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann. Questions, réactions au 01 45 24 7000 dès 7h ou sur l'application Radio France.
À tout à l'heure, France Inter, il est 5h29. Le journal Astrid Meignet-Carne. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pas une, mais deux futures prisons de haute sécurité.
Pour accueillir les 200 narcotrafiquants les plus dangereux emprisonnés en France, Gérald Darmanin a détaillé hier soir sur France 2 cet axe de son plan de lutte contre les trafiquants de drogue. Le ministre de la Justice a donc choisi Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne.
J'ai décidé de taper fort parce qu'il faut que nous montrions que la fermeté de l'État, c'est plus jamais une affaire AMRA. Et donc nous aurons deux établissements de haute sécurité cette année. Ça fait 200 narcotrafiquants qui d'ici le 15 octobre seront totalement à l'isolement du reste de la société. Ils sont déjà des établissements pour peine, avec déjà des cours à part, avec un certain nombre de personnels déjà formés. Il faut bien sûr rendre tout à fait hermétique les deux établissements, renforcer les moyens, y mettre un certain nombre de personnels supplémentaires. Donc à partir du mois d'avril pour la prison du Pas-de-Calais, à Vendin-le-Vieil, on sortira les détenus qui ne sont pas concernés. On fera pendant deux mois des formations pour les agents, une sécurité totale et les travaux. Et à partir du mois de mai-juin, les nouveaux détenus y rentreront. Ce sont des personnes qui sont dangereuses, essentiellement des narcotrafiquants, mais aussi des terroristes islamistes.
Le ministre de la Justice sur France 2 hier soir. Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné hier l'influenceur algérien Doualemn. 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit. Dans une vidéo publiée en janvier, l'homme de 59 ans a appelé à donner une sévère correction à un opposant au régime. Jean-Charles Naouri, ex-PDG du groupe Casino, lui jugé à la fin de l'année pour corruption et manipulation de cours. Le parquet national financier le soupçonne d'avoir payé un éditeur de presse pour défendre le cours de l'action du groupe de façon artificielle en 2018 et en 2019. Son procès se tiendra en octobre devant le tribunal correctionnel de Paris.
5h31 sur France Inter, un effort à 800 milliards d'euros confirmé.
Les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord hier à Bruxelles sur les contours du plan baptisé Réarmer l'Europe. Une stratégie qui comprend des moyens donc, et notamment la possibilité pour les États d'augmenter leur dépenses militaires sans que ce soit pris en compte dans le calcul de leur dette, en principe limitée par Bruxelles à 3% de leur produit intérieur brut. Autre sujet de ce sommet, la guerre en Ukraine bien sûr. L'UE réitère son soutien et prévoit 30,6 milliards d'euros pour Kiev cette année. Invité de ce sommet, Volodymyr Zelensky a remercié les Européens et s'est dit ne pas se sentir seul. Les Ukrainiens qui vont bientôt se remettre autour de la table des discussions avec les Américains. Les délégations des deux pays ont rendez-vous mardi en Arabie Saoudite pour discuter d'un cadre de paix dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une décision, une semaine après l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, au moment où le président américain multiplie les annonces de suspension de l'aide militaire pour faire pression sur le président ukrainien. Des épisodes, Virginie Pironon, qui consternent un humanitaire américain que vous avez rencontré à Kryvyi Rih, au centre de l'Ukraine.
À 71 ans, Adam Cartel vient du Colorado. Cet humanitaire travaille pour une organisation britannique. C'est son troisième voyage en Ukraine. Mercredi soir, il a réchappé de justesse à la frappe d'un missile balistique russe sur son hôtel. Il y a eu 5 morts et plus d'une trentaine de blessés.
Comme vous pouvez le voir, on est venu au mauvais moment.
Deux des trois minibus de son organisation, Ukraine Rescue, plein de matériel destiné à des enfants, ont été détruits. Tout en regardant les pelleteuses déblayer les gravats, Adam se dit qu'il va rester jusqu'à la fin de sa mission, encore une semaine. Car dans le contexte, il estime qu'il est primordial que des Américains affichent leur soutien au pays.
Zelensky a fait un travail admirable au vu de la complexité de la situation. Je pense que la Russie ne veut pas la paix.
Et concernant les dernières décisions de Donald Trump,
je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais je vais vous dire ceci. Les gens ici pensent que les États-Unis sont contre l'Ukraine. Ils écoutent les informations, ce que dit le nouveau président, etc. Mais je peux vous dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis qui comprennent que les Ukrainiens se battent pour leur liberté. Ils sont courageux. C'est un privilège d'être ici et d'essayer d'aider les gens par tous les moyens.
Adam Cartel dit espérer que les Ukrainiens parviendront à remporter cette guerre avec l'aide des pays européens.
Virginie Pironneau, envoyée spéciale de France Inter en Ukraine avec Martin Troadec pour les moyens techniques et Yachar Fazilov. En Syrie, des affrontements entre soutien du régime déchu de Bachar al-Assad et des patrouilles des nouvelles autorités en place hier. Des combats qui ont éclaté à Jablé dans l'ouest du pays. Plus de 70 personnes sont mortes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des déboires pour la conquête spatiale américaine. Cette nuit, deux après SpaceX et sa fusée Starship qui a perdu la moitié de son vaisseau, et bien c'est l'entreprise Intuitive Machines qui a annoncé que la sonde qu'il a posée sur la Lune était de travers, alors qu'il aurait fallu qu'elle soit parfaitement verticale, Marion.
Et c'était le journal d'Astrid Meignet-Carn. Gardons donc les yeux tournés vers le ciel avec cette journée qui s'annonce belle aujourd'hui. Soleil dominant toute la journée des Hauts-de-France au Midi-Pyrénées et du Grand Est à l'intérieur de la région PACA. Le ciel est en revanche plus chargé sur la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine avec quelques gouttes à prévoir. C'est plus agité sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône, les côtes varoises, la côte d'Azur et la Corse avec des pluies parfois soutenues. Il neige sur les Pyrénées au-dessus de 2000 mètres. Le vent de sud à sud-est souffle, lui, sur le sud-est du pays jusqu'à 90 km/h sur le Lauragais. Et les températures, elles restent élevées, 2 à 12 degrés ce matin jusqu'à 20 cet après-midi. 15 à Cherbourg et Perpignan, 16 à Brest et Lille, 17 à Paris, Marseille et Toulouse, 18 à Lyon, Nantes, Strasbourg, Ajaccio et Clermont-Ferrand, 20 à Biarritz et Bordeaux. Allez, du soleil dans vos oreilles.
Le 5-6 sur France Inter.
Allez, on embarque dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez du groupe Arat Kilo, une invitation au voyage.
Oui Marion, des hauts plateaux d'Abyssinie jusqu'au Mali en passant par la France et l'Amérique, c'est cela, Arat Kilo. Sonnez trompette d'Éthiopie. Allez, avouez que ça commence plutôt bien pour un voyage.
C'est vrai.
Arat Kilo, ça veut dire kilomètre 4 en amharique, hein, la langue qu'on parle en Éthiopie.
Bien sûr.
Arat Kilo, c'est le nom d'une place d'Addis Abeba, un quartier d'étudiants, un centre d'affaires qui ne dort jamais vraiment. Arat Kilo, c'est aussi le nom d'un des plus fameux groupes d'ethio-jazz français. Ils sont actifs depuis un peu plus de 15 ans. Hip-hop et jazz se mêlent depuis le début chez eux aux influences éthiopiennes, hein, celles de la musique des années 60, 70, avant la chute de l'empereur.
Ouais.
Six musiciens chevronnés et soudés, Danama, ça veut dire digne de confiance, hein, c'est le sens de ce mot bambara venu du Mali, et de la confiance au kilo. Il en faut ces jours-ci, avouez.
Ouais.
Danama, c'est le titre du nouvel album d'Arat Kilo qui sort aujourd'hui. De l'Amérique à l'Amérique, de Paris au Mali, Arat Kilo.
Eternity, extrait du nouvel album qui sort aujourd'hui donc du groupe Arat Kilo. Groupe XXL, hein, Mathieu, puisque désormais les invités sont même de la partie.
En effet, Mameni Keita, la chanteuse malienne, et le rappeur et poète américain Mike Ladd étaient jusqu'ici des invités de choix, des réguliers, des fidèles, mais maintenant ils font désormais entièrement partie d'Arat Kilo. Et il y a de tout dans ce disque, de quoi danser, de quoi s'enfumer, de partir à l'ouest, de quoi souffler, méditer aussi. Je recommande par exemple le long morceau vers la fin qui s'appelle Calamity. On parle ici aussi bien d'hospitalité que de violence policière, du commerce triangulaire comme des écrans dans nos vies. Le morceau qu'on va écouter et qui va revenir sur nos antennes sur Inter, c'est Mbendia. On est à l'aise. Mameni Keita, Mike Ladd, Arat Kilo, ils vont vous faire les présentations.
Hey Mameni, you alright?
Hey Mike, Kobedi,
Mbendia, Arat Kilo, on est à l'aise.
Mbendia.
Easy like a Sunday moon. Fair girls, red pompadour. When I chill off shore. I sleep eight despite the war.
That way I can fight some more. Fight for peace suits out my pores. I put in work before the school.
À l'aise, Arat Kilo.
Ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien. Dans la playlist de France Inter, Danama, leur nouvel album sort donc aujourd'hui.
Et ils seront en concert le 1er avril au festival Banlieue Bleue à Pantin et le 11 avril à Toulouse.
Et merci Mathieu, on vous retrouve ce soir donc avec Arat Kilo dans Et je remets le son.
Oui, et puis je vous ferai entendre les nouveaux morceaux de Drake, des Viagra Boys, et puis je vous parlerai de Roy Ayers, un grand vibraphoniste californien. Vous vous souvenez, Everybody Loves the Sunshine, il est disparu cette semaine. Donc du soleil et Roy Ayers. Ce soir, et je remets le son.
Ça promet, à ce soir. 5h41 sur France Inter. Plusieurs dates à l'agenda du Rassemblement National. Le 31 mars, jugement de Marine Le Pen, potentiellement inéligible dans l'affaire des assistants parlementaires. Et dans un an, les élections municipales. Le RN rêve de conquérir davantage de communes. Et le parti lepéniste a toutes les raisons d'y croire dans les Bouches-du-Rhône, avec des résultats exceptionnels aux législatives l'an dernier et une ville récemment remportée dans des partiels, Rognac. À un an des élections municipales, le RN rêve de conquérir donc davantage de communes. Et pour s'implanter, le parti a une stratégie. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
La création par les responsables locaux du RN d'un label La Provence qu'on aime, c'est l'idée de Franck Alisio, patron local du parti que vous avez rencontré à Marseille.
Oui, sorti tout juste d'un rendez-vous à huis clos avec un maire, Franck Alisio lui a exposé le principe de cette labellisation.
On leur fera signer à un moment donné un engagement sur la manière dont on gérera ces villes, mais on ne leur demande pas beaucoup plus de choses. Et là où évidemment il y aura ce label, le RN n'aura pas à présenter de liste parce que quelqu'un représentera nos électeurs et représentera nos idées.
Ciblé particulièrement les maires et élus LR. Aux côtés de Franck Alisio d'ailleurs, Fabien Bravi, ex-conseiller de Martine Vassal, la patronne de la métropole. Une longue histoire à droite et une mission, aller porter la bonne parole.
Le temps est venu de la clarté, on ne pourra pas rester dans l'entre-deux.
Et dans les nombreuses communes où le RN explose les scores, l'initiative ne laisse personne tout à fait de marbre. Au nord des Alpilles, Saint-Étienne-du-Grèce, 3000 habitants, 63% en juin pour le candidat lepéniste.
Quand je vais au bistrot le matin boire mon café, je sens les gens.
Jean Mangion, maire depuis 42 ans, encarté LR.
Ils ne comprennent pas pourquoi on ne répond pas aux problèmes migratoires. Ils ne comprennent pas pourquoi tout est gratuit pour le mec qui vient de l'extérieur et qu'ils payent des impôts. Et que, voilà. Il n'y a pas de réponse nationale. Et donc les gens, ils vont vers des gens qui leur apportent des réponses.
Jean Mangion, dans la liste des maires que le RN a prévu de démarcher.
Moi, je n'ai qu'une réaction. Je vais devant mon conseil municipal. Je le propose. Comme, est-ce que vous êtes d'accord de faire le terrain de foot du village ?
Prudent donc, comme de nombreux élus déjà contactés et qui réservent leur réponse.
Mais c'est un enjeu donc pour le parti, avoir des relais dans davantage de communes, obtenir ainsi des grands électeurs et un gros groupe à la métropole.
Oui, un RN qui gagnerait en puissance, c'est de ce scénario dont débat ce soir-là l'association Forum, créée par Jean-Marc Zoulézy, ex-député Renaissance, battu de 300 voix par un candidat RN dont la photo n'apparaissait même pas sur les affiches.
En fait, ils utilisent M. Bardella comme outil de com'.
Élu d'une petite commune près de Salon-de-Provence, Michel ne s'en est pas vraiment remis.
Quand on n'a pas les idées du Rassemblement national et qu'on les combat et qu'on dépouille et que, en fait, dans son village, on découvre qu'il y a une majorité qui a voté Rassemblement national, on se pose la question de sa propre représentativité, ça interroge.
Dans la salle, un sondage est organisé qui croit en la capacité du RN à remporter des communes. Toutes les mains se lèvent. Aux états-majors des partis de prendre désormais conscience du risque, alerte Jean-Marc Zoulézi.
On a trop dit qu'il n'y avait pas de danger, jusqu'à ce que sur des circos comme la mienne par exemple, la circo de Martigues, qui était historiquement une circo très à gauche, eh bien, le Rassemblement National gagne. Et donc à force de dire non, mais ils ne viendront pas sur des municipales, etc., eh bien, je pense qu'on se trompe, parce que petit à petit ils arriveront à gagner des villes. Et il n'y a rien de plus grave, je dirais, que de gagner l'électorat de proximité que sont ces communes.
Et plus de 20 ans après la gestion calamiteuse de Vitrolles, de regretter la mémoire courte des habitants. Plusieurs participants au débat font aussi un autre constat sans appel face aux défis du temps. Les autres partis ont été mauvais. À nous, conclut Michel, de porter de vraies solutions.
Aujourd'hui, déficit de médecins. Comment on fait demain pour avoir des médecins ?
Pour contrecarrer le RN, entraver sa conquête des Bouches-du-Rhône.
Le RN à la conquête des Bouches-du-Rhône, c'était le reportage Zoom d'Élodie Forêt en réécoute sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h45, l'heure de contacter notre invité déjà debout, Benjamin Grivel, éleveur laitier à Laringe, en Haute-Savoie. Bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pourquoi vous êtes déjà debout ? En plus, ça fait un moment.
Alors aujourd'hui, je suis déjà debout parce que je suis en livraison de fromage jusqu'à Manigaud, donc j'ai une petite heure et demie de route, donc je suis debout depuis 3h30.
Waouh.
En temps normal, je suis debout depuis 5h15 parce qu'il faut traire les vaches et prendre soin des animaux le matin.
Et question très naïve de Béotienne, pourquoi est-ce qu'il faut les traire si tôt les vaches ?
Eh ben parce qu'elles sont traites deux fois par jour, donc si on les traite tard le matin, il faut les traire tard le soir, et c'est comme tout, on a une famille et j'ai envie de rentrer chez moi voir ma famille avant qu'il fasse tout nuit et que tout le monde soit au lit, quoi.
Vous êtes associé gérant au sein du groupement agricole d'exploitation en commun, le Noyer. Qu'est-ce qu'il produit, ce groupement ?
Alors, majoritairement de l'abondance, AOP, et puis...
Appellation d'origine protégée.
Voilà, de la tome de Savoie IGP, de la raclette IGP.
Et ça veut dire quoi d'être membre d'un groupement agricole comme ça ?
Bon, ça veut dire qu'on travaille pas tout seul, on peut se reposer sur ses associés, sur ses collègues de travail. Ça nous permet de faciliter aussi la transmission de nos exploitations, hein, parce que quand on est tout seul, c'est toute l'année, c'est tous les jours, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de dimanche. Tandis que quand on est associé, c'est quand même plus facile de gérer ces périodes où la charge de travail augmente pour les autres, donc du coup, parce qu'on n'est pas là, quoi.
Alors, si j'ai bien compris, Benjamin Grivel, chez vous, l'agriculture, c'est une histoire familiale de longue date. Vous avez essayé d'y échapper, et puis finalement, non.
J'ai essayé, oui et non, mais c'est un amour qui nous rattrape toujours. Oui, c'est effectivement, on est depuis 1832 sur le site familial. Donc il y a déjà des générations qui m'ont précédé. J'espère qu'il y en a qui viendront après moi, mais... Et l'avenir nous le dira.
Aujourd'hui, vous avez 80 vaches plus oui. Les veaux. Alors, l'actualité récente en matière d'agriculture, c'était le salon qui s'est terminé le week-end dernier. On a eu l'impression, en tout cas vu d'ici, d'un rendez-vous plus apaisé que l'an dernier. Ça va mieux entre le gouvernement et les agriculteurs ?
Ça va un petit peu mieux parce que le gouvernement a montré des signes, on va dire, de compréhension envers le monde agricole français. Notamment avec les accords d'Amérique du Sud.
En disant qu'il y était opposé à cet accord de libre-échange.
Voilà, exactement. C'est vrai que pour nous, c'était quand même pas très normal de se faire imposer des normes qui nous paraissent normales à nous, mais de se trouver en concurrence avec des produits qui ne les respectent pas, quoi.
Vous dites concurrence déloyale, en clair.
Bon, en clair, je dis qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous, ils n'ont pas les mêmes charges que nous, et puis quand leurs produits arrivent chez nous, eh ben, y a une équivalence des labels qui ne devrait pas exister, si vous voulez.
Il y a ça, et puis au rang des difficultés, il y a ce sentiment d'être victime d'injustice parfois, de travailler beaucoup, de ne pas être réellement reconnu.
Oui, c'est clair. On voit un petit peu tout. On voit aujourd'hui des industriels qui essayent de se faire passer pour des agriculteurs, de vendre des produits comme ça, en disant qu'ils sont producteurs, et ça fait du mal à toute la filière, ça fait du mal aux consommateurs parce qu'ils se sentent lésés aussi. Il y a énormément de choses. On a une administration avec laquelle on a beaucoup de mal à communiquer, et ça, je pense que c'est pas qu'au niveau agricole. Hein. C'est le commun de tous les Français aujourd'hui. Hein. Donc, ça s'accumule un petit peu, on va dire.
Il y a eu des élections professionnelles récemment dans votre secteur, la FNSEA toujours en tête, la coordination rurale qui s'affiche plus proche du Rassemblement national et qui gagne des places, des élus au sein des chambres d'agriculture. Vous comprenez cette évolution ?
Je sais pas quelque chose sur lequel je m'identifie énormément, on va dire le syndicalisme agricole. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on veut simplifier le système ou qu'on veut revendiquer des choses, c'est mettre des pansements sur des jambes de bois. Il y a pas de vraie révolution, il y a pas de vrai changement de discours. Donc non.
Mais puisqu'on arrive à la fin de l'entretien, Benjamin Grevel, un message positif peut-être. Vous continuez d'aimer votre profession.
Je l'aime énormément. Je crois fort en l'avenir de l'agriculture. Je crois fort en nos jeunes qui arrivent et qui sont, malgré tout ce qu'on raconte, très très motivés et très compétents.
Benjamin Grevel, éleveur laitier à Laringe, en Haute-Savoie. Bonne journée qui a déjà commencé depuis un moment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité déjà debout ce matin sur France Inter. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, sortez les épées et les armures.
Pourquoi les chevaliers ont disparu ? Je m'appelle Swan, j'ai 4 ans et demi. Voilà.
Et voilà Swan, merci pour ta question. Peut-être que t'aimerais bien voir des chevaliers encore aujourd'hui. Pourquoi les chevaliers ont disparu ? Est-ce que vous pouvez répondre à petit Swan, Laurence Moulinier-Brogy, vous qui êtes historienne spécialiste du Moyen-Âge. Alors c'est le Moyen-Âge occidental, c'est-à-dire du 5e au 15e siècle. Il y avait des chevaliers.
Tu as raison, les chevaliers ont disparu. Et pour comprendre pourquoi, peut-être il faut rappeler comment ils sont apparus. Dans nos sources, c'est-à-dire dans les documents qui nous viennent du Moyen-Âge, le chevalier apparaît au 10e siècle, donc il y a vraiment longtemps. C'est non seulement un homme capable de se battre à cheval, mais aussi capable de posséder un cheval. Et les chevaliers apparaissent assez vite comme une unité de combat de grande valeur, dominante en Europe à partir du milieu du 10e siècle, en gros, date à laquelle ils vont permettre à l'empereur germanique de remporter une victoire décisive contre les Hongrois.
Que des hommes, hein, à chaque fois, vous avez bien dit.
Que des hommes.
Pas de femmes, ok.
Mais effectivement, des chevaleresses existeront plus tard.
Ah !
De là, ces chevaliers vont devenir la fine fleur, l'élite de l'armée, et on les voit vraiment en pleine lumière dans nos documents au XIe siècle, donc un siècle plus tard. Alors, devenir chevalier, ça s'improvise pas. Ça veut dire d'abord une formation, recevoir une formation, et très vite aussi, pour devenir chevalier, il va y avoir une cérémonie à la clé, un rituel par lequel on va marquer solennellement l'entrée du jeune homme en chevalerie. Alors, en gros, ce que je peux te dire, c'est que dès l'âge de 7 ans, un petit garçon noble pouvait quitter le château de son père et entrer comme page, donc comme serviteur, chez un autre seigneur pour apprendre le métier des armes.
Donc on pouvait apprendre à être chevalier dès 7 ans.
Oui, dès l'âge de 7 ans, qui est considéré comme un âge de raison, de discernement, comme à notre époque. Ensuite, le jeune garçon, le futur jeune homme, devenait écuyer, grosso modo, entre l'âge de 14 et 19 ans. Donc on va dire l'adolescence. Ensuite, autre étape, autour de la vingtaine, il devenait vraiment chevalier, au terme donc d'une cérémonie qui se nommait adoubement. L'adoubement était très codifié. Tout d'abord, le jeune, puisqu'il est jeune, revêt une tunique spéciale, un vêtement particulier, soit blanc, soit rouge, et il se rend à la chapelle du château pour y passer ce qu'on appelle la veillée d'armes. L'expression est restée, hein, le jeune homme doit veiller, donc la veille du grand jour, il médite. Pendant tout ce temps, il y a des objets très importants, les armes d'une part, notamment l'épée qu'il va revêtir le lendemain. Ces armes, on les dépose sur l'autel de l'église, donc la partie la plus sacrée à l'intérieur d'une église. Et puis le lendemain, le futur chevalier va prêter serment. Il prête serment devant un seigneur et s'engage à un certain nombre de choses. Voilà entre autres ce qu'on lui dit. Tu protégeras l'église, tu respecteras tous les faibles et tu te constitueras le défenseur des faibles. Donc voilà la mission, les missions plutôt, auxquelles s'engage le chevalier. Mais L'évolution des techniques guerrières, notamment le rôle croissant de l'artillerie, va petit à petit reléguer ces héros, les chevaliers, à l'arrière-plan. Et il y a une bataille décisive en 1525, donc c'est plus le Moyen-Âge, c'est le tout début de ce qu'on appelle l'époque moderne, à Pavie, où les chevaliers sont abattus par les arquebusiers et ensuite mis en pièces par les piquiers. C'est la fin de la prouesse des chevaliers et de leur efficacité sur les champs de bataille.
Aïe, 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 les arquebusiers, du nom de leur arme à feu individuelle, et les piquiers, avec leur grande lance en forme de pique, vous l'aurez deviné, les chevaliers n'ont plus fait le poids. Salut les matelots.
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et à retrouver dès ce soir, après le journal de 20h.
France Inter. 5-6.
Et c'est l'heure de déguster un petit café philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Et c'est du lourd hein, ce matin dans Café Philo, l'opportunité de vivre et la valeur de la vie.
Alors c'est du lourd effectivement Marion, mais les questions que nous nous posons sur la vie en général sont costaudes, vous le savez.
Oui.
Deux philosophes pour les évoquer et les approfondir, André Comte-Sponville et Francis Wolff. Les deux se connaissent depuis longtemps, d'ailleurs ils parlent souvent philo ensemble et peut-être d'autres sujets aussi, j'en sais rien. Le dernier livre de Francis Wolff soulève la question du vivant, terme inclusif pour désigner les humains et les non-humains. Le vivant est un terme souvent employé, y compris par certains philosophes, mais Francis Wolff s'en méfie, il explique pourquoi. Non qu'il se fiche des écologistes, surtout, précise-t-il, après l'élection de Trump et son idéologie climato-sceptique. Et avec beaucoup de finesse et de subtilité, je dois dire, il nous dit pourquoi tout vivant n'est pas équivalent à un autre vivant. Pourquoi la vie en soi n'a pas la valeur qu'on lui accorde. La vie en elle-même n'a rien de vivant, écrit-il. Proclamer l'égalité du droit à vivre de tous les vivants équivaut à les empêcher de vivre. Et ce n'est pas en nous pensant, nous les humains, comme des vivants, que nous pouvons penser et encore moins combattre ce qui nous arrive et ce qui nous menace. Vous me suivez?
C'est sacrément complexe, hein. Quand même, comme penser, ça mérite un développement. Hein.
Alors, vous avez une heure, Marion?
Oui, bien sûr.
On y va. Ouais, voilà.
Allons-y.
Alors, j'ai largement résumé la pensée de Francis Wolff. J'espère au moins ne pas l'avoir trahi.
Et André Comte-Sponville, qu'en est-il?
Alors, dans son livre, L'opportunité de vivre, Comte-Sponville évoque un certain nombre de philosophes qui ont jalonné sa vie, qu'il s'en soit rapproché ou éloigné, comme c'est le cas avec Spinoza. Il lui a d'abord donné envie de se battre, et puis ensuite, il lui a reproché d'avoir voulu évacuer le tragique de la sagesse, rien de moins. Il y parle également de Montaigne, à qui il fait la part belle. Il admire chez Montaigne d'avoir réussi une fusion quasi parfaite entre philosophie et littérature, entre concept et affect, entre pensée et vie. Et puis, il y a son chouchou, je pourrais dire, Marcel Conche, un contemporain, cette fois, puisqu'il a disparu il y a à peine 3 ans, et il a profondément marqué Comte-Sponville. Marcel Conche.
Je vais commencer par une phrase d'Épicure, que nul étant jeune ne tarde à philosopher, ni vieux ne se lasse de la philosophie, car il n'est pour personne, ni trop tôt ni trop tard, pour assurer la santé de l'âme. Celui qui dit que le temps de philosopher n'est pas encore venu ou qu'il est passé, est semblable à celui qui dit que le temps du bonheur n'est pas encore venu ou qu'il n'est plus. De ces phrases, il résulte que le sens de la philosophie serait de nous rendre heureux. Les choses ne sont pas aussi simples.
Les choses ne sont pas aussi simples, dit le philosophe Marcel Conche. Merci Patricia, ce soir dans l'heure philo, joli face-à-face donc entre Francis Wolff pour son livre « La vie a-t-elle une valeur ?» publié chez Philosophie Magazine Éditeur et André Comte-Sponville pour « L'opportunité de vivre » sorti aux presses universitaires de France. Et tout ça, c'est à 20h10. À ce soir.
À ce soir, merci Marion Lourd.
Chaque Français en boit 135 litres chaque année. L'eau en bouteille a-t-elle un avenir? Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce vendredi, le 13-14 est en direct de Volvic, en Auvergne. Les eaux minérales sont-elles traitées? Qui garantit leur qualité? Les ressources sont-elles suffisantes pour tous, agriculteurs, industriels et consommateurs? Nos invités sur place avec nous pour vous répondre.
Le 13-14 de France Inter.
En direct de Volvic, c'est tout à l'heure.
5h58.
La météo avec Utopia. Camping, tentes et cabanes en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Et voici Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Céline.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
L'ambiance sera encore printanière aujourd'hui Céline.
Oui, avec des températures toujours très douces l'après-midi. La moyenne ira de 15 à 20 degrés de Rouen à Biarritz en passant par 17 à Paris, 18 à Strasbourg ou Clermont-Ferrand. Ce matin, ça reste frais. On a même encore quelques gelées dans l'Est. Une moyenne de 2 à 11 degrés pour les autres, jusqu'à 16 degrés déjà à Biarritz, avec du coup une grande douceur ce matin.
Comme d'habitude.
C'est vrai qu'il fait souvent doux à Biarritz.
Pour le ciel, pas beaucoup de changements, Céline.
Non, ce sera encore largement ensoleillé. On aura quand même un ciel un petit peu plus voilé sur l'ouest de la Normandie à l'Occitanie, un petit peu comme hier. Et puis deux zones plus perturbées, la Bretagne, ça c'est nouveau, avec un risque d'ondées toute la journée. Et plus au sud, on va retrouver la zone qui était déjà perturbée hier sur le Languedoc-Roussillon. Ce matin, ce sera uniquement sur le Languedoc-Roussillon avec un ciel couvert et pluvieux. Mais la perturbation va gagner les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, Côte d'Azur, Côte Varoise et l'est de la Corse cet après-midi, avec là aussi des nuages, des averses et un vent toujours très présent. Alors vent de sud, sud-est avec de bonnes rafales, jusqu'à 50-70 km à l'heure. Et puis surtout, ce vent d'autant qui va se renforcer avec des pointes jusqu'à 100 km à l'heure attendues cet après-midi dans le Lauragais. Lauragais, c'est la zone entre Toulouse, Carcassonne et Castres.
C'était la météo de Céline Dacosta.